Bonjour et bienvenue. Je souhaite que votre venue ait été bonne, que ce moment que tu as choisi de prendre dans ton emploi du temps te soit profitable dans ta relation à toi, dans ta relation à Dieu. Nous allons prier. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous venons devant toi pour te présenter ces instants. Que ta personne soit glorifiée dans le moment que nous allons passer ensemble. Que ce soit toi, ta personne et ton impact dans nos vies qui soit l'objet de nos pensées. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Avent, c'est un temps dans lequel nous entrons pour nous préparer à célébrer la venue en chair du Fils de Dieu. Et c'est pour cela que nous allons allumer la première bougie. Mais il y a d'autres choses qui vont se passer dans cette période de l'Avent. En l'occurrence, cet après-midi, à 17h, il y aura un concert de psalmodie. Venez assez tôt, privilégiez les parkings publics, les transports publics aussi, et laissez la place aux techniciens et les personnes à mobilité réduite sur le parking à côté. Et puis à la fin du culte, on va faire des tas de 10 chaises pour laisser la place pour l'installation. Et autrement, mardi soir, un atelier biblique à 20h avec pour thème la diversité culturelle, ici dans ces locaux. Au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie. Et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. La parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père.
Et bonjour et bienvenue. Je vous invite à vous lever. Et à chanter un retentissant « Voici Noël ».
Là dans l'ombre, le silence, la ténèbre.
La parole, réalité invisible à l'œuvre dans notre monde physique, est devenu un homme et il a habité parmi nous. Jésus est cette parole devenue un homme qui a habité parmi nous. Mais il a quitté notre monde physique. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour que cette parole soit toujours à l'œuvre dans notre monde physique. Comment vivons-nous? Comment entendons-nous? Recevons-nous? Sommes-nous touchés par cette parole aujourd'hui? J'ouvre un temps de discussion de parole. Est-ce que parfois une idée, une impression vous est venue à l'esprit et vous êtes dit que c'était Dieu qui voulait vous communiquer quelque chose, qui voulait vous parler? Est-ce que vous avez reçu une fois quelque chose de la part de Dieu qui vous a aidé dans votre vie? Est-ce que quelqu'un, en 2-3 mots, aimerait raconter quelque chose? Denise Albisser.
Marcher avec Dieu est une belle aventure. Et je voudrais donner un témoignage. Lorsque Werner est décédé, il y a 3 ans, je me suis retrouvée dans une étape à reconstruire avec des questions. Et j'avais vraiment besoin de Dieu. Un matin, Dieu est venu me visiter et il a laissé dans mon cœur 2 mots. Reconnaissance et émerveillement. Et j'ai découvert que c'était en fait un cadeau. J'ai intégré ces 2 mots dans ma vie et ces 2 mots clés l'ont transformé, ont transformé ma vie. C'était émerveillement pour les bienfaits de Dieu dans ma vie, et ils sont nombreux, je crois, et reconnaissance pour toute chose. C'est vraiment été une nouvelle étape très marquante pour moi, très encourageante, de voir que Dieu est fidèle avec sa promesse, qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Donc, merci à Dieu pour ce beau cadeau qui nous parle encore aujourd'hui.
Merci à toi, Denise. Séverine.
C'est une petite histoire qui a eu lieu dans un camp de la Drôme. J'étais dans l'équipe des responsables. Et puis un jour, je dis au responsable, moi j'aimerais bien que Dieu me parle dans mon sommeil comme il l'a fait avec d'autres dans la Bible. Alors, il faut faire attention à ce qu'on demande. Le lendemain matin, je me réveille avec une pensée. Huile ce qui doit être huilé. Alors voilà, je me suis réveillée avec ça. Puis je dis, bon, super, qu'est-ce que je fais de ça? Et j'en reparle au responsable en disant, voilà, j'ai cette pensée dans ma tête. Huile ce qui doit être huilé. Et voilà, la journée se passe. Et puis, vers l'heure du souper, il y a un monsieur qui arrive sur le chemin du camp de la Drôme, complètement paniqué. Et ce monsieur nous a confié qu'en fait, il cherchait les chaînes de Mamré. On a dit qu'il était au bon endroit. Et puis, il expliquait qu'il avait ouvert un livre qui s'était acheté dans une espèce de brocante, puis un livre qui était plutôt satanique. Enfin, il y avait Voilà, des paroles qu'il avait hantées toute la nuit, en fait. Et puis là, il y a un des responsables du camp qui me dit « Séverine, est-ce que tu aimerais prier pour ce monsieur ?» Et puis, on lui a fait une onction d'huile, en fait. On a pu bénir ce monsieur, vraiment l'accueillir. Il est resté manger avec nous et ensuite, il est reparti, extrêmement paisible. Alors voilà, c'est une petite histoire, mais je me suis dit, c'est pas moi, en fait. Clairement, c'est pas moi.
Merci beaucoup. Très varié.
Alors, bonsoir. Bonjour.
Tu me rappelles ton nom ?
Ouais, moi, c'est Telmo.
Telmo. Moi,
on ne me voit pas très souvent. du coup, moi, c'était une anecdote par rapport à un camp de ski. En gros, moi, pendant les soirées de louange, des fois, je ne sais pas pourquoi, je sens que je dois sortir et puis sortir dehors, prendre l'air. Puis une fois, je suis sorti. Et puis, c'était une période de ma vie où je me disais, waouh, Dieu, il est loin. Il est vraiment loin. Et je me suis assis sur un banc. Et puis, la vallée juste en face, il y avait une croix illuminée. Et puis là, je me dis, Dieu, il est là-bas. Et le chemin, là, il est vraiment long. Et en fait, du coup, plus je me posais, plus je la regardais, plus j'avais l'impression qu'elle se rapprochait de moi. Et jusqu'à qu'elle soit vraiment, genre, toute proche de moi. Et, genre, au fond de moi, il y a une petite voix qui m'a dit, moi, je suis là, en fait. Mmh. Et t'as l'impression que je suis loin, mais en fait, je suis juste à tes pieds, juste là. Et franchement, ça m'a vraiment boosté. Et puis après coup, ça, c'était vraiment un coup de motivation. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On a fait une belle rangée.
Mélina.
Alors, pas plus tard que mardi soir, j'ai commencé à être un peu comme prise de panique parce que je cherche à faire un doctorat. Et faire un doctorat, c'est en fait bien plus stressant que ce que j'avais prévu que ça serait stressant. Parce qu'avant même de pouvoir faire le doctorat, il faut trouver avec qui faire un doctorat et où faire un doctorat et comment être financé. Et tout est extrêmement stressant. Et moi, je résiste très mal au stress. Et donc, j'ai commencé à... Fallait que je dorme, en plus. Évidemment, je n'ai pas dormi, parce que j'étais stressée. Et le mercredi matin, je me réveille, il fallait que je parte au travail. Et j'étais complètement paniquée. Mais vraiment, ce stress qu'on n'arrive plus à contrôler. On sait qu'on stresse, on stresse, on stresse, on se dit, il faut que je me calme. Mais le calme n'arrive pas. Et donc, moi, je fais beaucoup de vélo. Donc, je prends mon vélo, je pars au travail. Et je me dis, sur ce vélo, je me suis mise à prier. J'ai essayé de me calmer en priant. En me disant, ben voilà, plus je vais parler à Dieu et plus son amour il va me remplir et je vais être calmée. Ça n'a pas trop fonctionné. J'étais encore très stressée, mais je me suis dit, bon, la prière a été faite. On verra, maintenant il faut que je travaille, donc il va falloir que je me concentre sur mon travail. Et puis je sors du travail, et après il fallait que j'aille à l'université pour un cours. Et je n'avais même pas envie d'aller au cours, tellement j'étais mal, j'étais stressée, je me suis dit, oh, je ne vais pas y aller. Mais comme je n'arrivais pas à travailler non plus pour l'université, je me suis dit, bon, au final, je vais quand même y aller. Donc, je suis allée à ce cours, et c'est une prof qui est vraiment super. Et d'habitude, elle termine pile à temps pour qu'elle court pour prendre son train. Et ce mercredi, elle a terminé 15 minutes plus tôt. Et moi, j'allais sortir, comme toujours, avec ma boule de stress. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, tiens, je vais lui poser la question. Et elle m'a dit, on a commencé à discuter, elle m'a dit, mais ton sujet, il est super, je vais parler de toi directement à une professeure vraiment connue de Paris. Et donc, maintenant, j'ai une possibilité peut-être de faire un doctorat sur Paris, alors que vraiment, moi, de base, j'étais juste complètement paniquée. Et c'est de cette façon, moi, que je vois Dieu me parler, c'est dans la vie qui m'entoure, dans ce qui m'arrive, et je me dis, c'est pas possible que ça se passe autrement que si c'est pas Dieu qui le contrôle, on va dire.
Ceux qui me connaissent savent que je lutte depuis des années et des années avec les scénarios catastrophes. Et puis ça me dérange beaucoup, non seulement c'est très désagréable et c'est embêtant, mais je trouve que c'est incohérent parce que je dis toujours que Dieu s'occupe de moi, qu'il est souverain, enfin je dis tout ce qui est la vérité et puis je ne le vis pas. Et puis au début de l'année, on vivait quelque chose de difficile et je tombe dans ma lecture, je tombe sur le psaume 56. Et puis c'était ce qui m'a touchée, c'est « Je veux accomplir les vœux que je t'ai faits ». Alors j'ai pris mon crayon, j'ai écrit, bref. Et quelques jours après, je tombe par hasard, entre guillemets, sur Ecclésias 5. Si tu fais un vœu à Dieu, mieux vaut pour toi l'accomplir. Si tu fais un Dieu, accomplis-le. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en accomplir un et de ne pas l'accomplir. Et vous savez, Dieu, il me connaît, il sait que j'ai plutôt besoin qu'on me remette en question plutôt qu'on me passe la pommade. Et je peux vous dire, ces deux versets, ça a changé vraiment ma façon de penser et de vivre.
Comment tu les as compris, là? Moi, je ne comprends pas.
Tu ne comprends pas?
Non.
Ben oui, j'ai pris la décision de ne plus me faire des scénarios catastrophes parce que j'invente. Je suis tout le temps dans la situation à me dire, pourquoi pas moi? Parce que je trouve qu'on est tellement privilégiés que je ne vois pas pourquoi nous, on serait toujours épargnés. Mais ça gâche ma vie parce que je vais bien et puis je m'invente des choses qui n'arriveront certainement jamais. Et rien que de me dire, ben, maintenant, arrête, et je peux vous dire que ça m'aide énormément. Gloire à Dieu.
Une dernière personne.
Eh ben, moi, j'écoutais le témoignage, je ne sais pas comment tu t'appelles pour tes études, excuse-moi, j'oublie.
Mélina.
Je suis nulle avec le prénom. Et moi, bah, récemment aussi, je suis très, très stressée facilement. Et je déteste un truc, c'est les examens. Ça, je ne supporte pas. Surtout qu'avec l'âge, c'est de moins en moins bien. Et en plus, j'ai été très testée parce que j'ai entrepris des études un peu tard, qui sont difficiles. Et j'avais un examen. Je l'ai raté la première fois par stress. La deuxième fois, j'avais perdu mon papa. Et 3 semaines après, j'avais l'examen, mais bien sûr, ma tête, elle était complètement ailleurs. Et j'avais plus de chance. J'avais une troisième. Normalement, on a 3 chances, mais là, comme j'étais en dehors de mes études, j'avais passé le temps, j'avais plus de chance pour le refaire. Donc, c'était fini. Grosse colère. J'ai même été voir Philippe. Je crois qu'il y a des joyeusetés qui sont sorties de ma bouche aussi à ce moment-là. Mais bon, merci Philippe de m'avoir écouté. Et je crois que j'ai croisé plusieurs personnes, puis j'en ai parlé, j'étais vraiment en colère. Et puis j'avais colère de la mort de mon papa, tout ça. Mais le lendemain, ce deuxième examen, je me rappellerai toujours, j'étais dans la douche. C'est là où Dieu me parle toujours, aussi sur les toilettes ou dans la douche. Les trucs les plus humiliants, quoi. À nu, quoi. Et il me disait, alors, pour ton examen, tu devras faire comme ci, comme ça, comme ça. Des trucs très pratiques. Puis moi, je lui dis, mais excuse-moi, Dieu, mais j'ai plus de chance, au fait. Donc, je ne peux plus le faire. Alors, je ne vois pas pourquoi tu me dis ça. Puis en plus, tu m'avais promis que j'allais réussir. Et là, c'était un flop total. Donc, il m'a dit, et puis il m'a répondu, mais qui a dit que c'était pour cet examen-là? OK, je suis restée avec ce mot. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Au fait, l'école a vu que j'avais perdu mon papa, donc ils m'ont donné la 3e chance. Et j'ai réussi l'examen. Et voilà, merci Seigneur.
Tous ces témoignages montrent la diversité, ça me touche beaucoup tout ce que vous avez dit, la diversité que Dieu a de nous parler, à travers des personnes, à travers la Bible, à travers une image dans la nature, sous notre douche. Je crois que Dieu a vraiment des milliards de façons de nous parler parce qu'il nous connaît. Il sait exactement comment il faut nous prendre pour que sa parole arrive et porte du fruit et nous fasse du bien dans notre vie. Dans ce qui va suivre, je vais vous demander de vous souvenir un peu de ces témoignages. Et bon, tout le monde n'a pas des histoires comme ça à raconter, mais ça ne veut pas dire qu'on est des moins bons chrétiens ou que Dieu nous aime moins. On dit les choses peut-être différemment, ou bien on est timide, et ça tient aussi à l'intimité de nos personnes. Donc ne vous faites pas de soucis avec ça. Mais dans les moments qui vont suivre, essayez de rester dans ce moment où on est proche de Dieu, parce que vous allez voir ce qui va suivre. Voilà. Je voulais vous demander encore une question qui gueulotte. Est-ce que vous avez déjà vu un ange, quelqu'un? Il y en a qui pensent qu'ils ont vu des anges.
Lecture de la parole, Luc 1, 26 à 37. Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand. On l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre, et il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. »
Vous avez compris pourquoi je vous ai demandé de rester un peu dans ce moment où on pense que Dieu nous parle, qu'on se sent touché, on se sent dans la présence de Dieu. Parce que, hein? Voilà. Et puis l'ange aussi. Parce que l'ange, on peut le dire, c'est quelqu'un qui nous a parlé de la part de Dieu. Non, pour Mélina, c'était ta prof, c'était un ange pour toi. Parce que Marie a vécu un face-à-face vraiment très particulier avec Dieu, mais c'est bon, elle a reçu une nouvelle que personne avant elle n'avait reçue et que personne d'entre nous ne recevra depuis. Hein, ça c'est absolument clair. Mais chacun, Dieu a envie de s'adresser à chacun d'entre nous parce que nous sommes tous des gens très très précieux pour lui. Marie, on en a fait une icône, un modèle de pureté, de soumission et d'obéissance à Dieu. Elle avait presque pas de caractère propre, mais il ne faut pas oublier que Marie était un être de chair et de sang avec des tripes comme nous. Un ange entre chez Marie. Pourquoi chez elle? On ne sait pas, parce que rien ne semble la différencier d'une autre jeune fille. On sait l'essentiel pour comprendre ce qui va suivre. Elle est vierge, donc elle n'a pas encore eu de relation sexuelle. Elle est fiancée. Et il faut que je vous explique, à l'époque, être fiancée, c'est équivalent au mariage, sauf que les deux époux, n'avaient pas encore partagé leur vie commune. C'est pour dire le sérieux de l'engagement qui liait Marie à Joseph et Joseph à Marie. Son fiancé s'appelle Joseph et il est de la famille du roi David, comme ça a été mentionné dans l'annonce de l'ange. Le roi David, c'est le plus grand roi le plus fameux de l'histoire du peuple d'Israël. Elle habite Nazareth. Nous, on connaît bien ce nom, mais à l'époque, ce nom, c'était un bled complètement inconnu. On le connaît seulement depuis que Jésus est venu sur la terre, parce que dans l'Ancien Testament, il n'est jamais mentionné. Donc, vraiment, une jeune fille comme toutes les autres, dans un bled comme tous les autres. Mais aussi, d'après son attitude pendant la visite de l'ange, on peut se dire que c'est une jeune fille réfléchie, équilibrée et qui a les pieds sur terre. A-t-elle réellement vu un ange ? Bon, moi, j'ai jamais vu un ange avec mes yeux, et vous avez jamais vu d'ange avec des ailes. Hein. Est-ce que c'était une vision ? Ou bien peut-être que raconter une histoire comme ça en parlant d'un ange, c'est une façon de parler, d'expliquer ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que la présence de l'ange ne l'écrase pas, ne l'envahit pas, ne la phagocyte pas, si vous comprenez ce mot, et il ne prend pas du tout le contrôle de sa personne. Elle reste elle-même, elle réfléchit, elle écoute, elle pose une question des plus sensées et elle donne son assentiment. Rien ne se fait sans elle, sans elle, rien ne se fait à son insu. Ils sont deux. Il y a cette présence et elle. C'est peut-être pour ça qu'on parle d'un ange, parce qu'ils sont deux. Il n'y a pas de confusion entre eux. Cet ange lui annonce quelque chose d'énorme. Je pense que les femmes, on comprend. Elle va être enceinte, elle aura un fils avec un destin tout à fait spécial, comme nul autre avant lui. Cette annonce est des plus mystérieuses, voire incompréhensibles, et surtout impossibles. Donc, on comprend la question de Marie. Moi, j'aime bien la question de Marie parce qu'elle est vraiment pratique, concrète. Elle a les pieds sur terre. Elle n'est pas dans le ciel. Oh, merveilleux, je vais avoir quelque chose, un destin spécial. Elle est vraiment dans le concret de la vie. Mais comment ça sera possible, ça, puisque je n'ai couché avec aucun homme ? Par le Saint-Esprit qui viendra sur elle et la puissance de Dieu la couvrira comme d'une ombre. La puissance de Dieu, puissance, oui, mais comme d'une ombre, donc tout en délicatesse. Et pour l'aider à comprendre, à croire, il lui offre un exemple de l'intervention de Dieu proche d'elle. Il mentionne Élisabeth, sa cousine, démonstration que rien n'est impossible à Dieu. Marie décide de laisser Dieu faire. Elle s'en remet à lui, que tout se passe selon ta parole. Et l'ange la quitte. Par respect, parce qu'il a confiance en elle, ou pour lui donner de l'espace pour réaliser ce qui vient de lui arriver. Marie a été d'accord, mais la joie et la louange ne sortent pas de sa bouche. Maintenant, j'aimerais que vous essayiez de vous mettre à la place de Marie. Une jeune fille qui va avoir un enfant dans des circonstances étranges, sans l'homme avec qui elle va vivre. Avoir un enfant hors mariage de nos jours, ça passe totalement inaperçu. C'est plutôt le contraire qui est spécial. Et puis, aujourd'hui, on réfléchit aussi à mettre au monde des enfants à cause des circonstances de notre monde actuel. Quand j'étais jeune, parce que les jeunes, vous ne comprenez pas ce que je vais dire, mais quand j'étais jeune, ce n'était pas facile. On risquait le jugement des gens, on faisait jaser, on parlait de fille-mère, ce n'était pas tout simple. Et dans des temps encore plus anciens, c'était très très compliqué. Les filles étaient souvent chassées de leur famille, mise au banc de la société, voire internée. Et à l'époque de Marie, elle risquait la lapidation, d'être tuée à coups de pierre, et Joseph avait le droit de la répudier, de rompre ses fiançailles. Donc, l'ange, l'annonce de l'ange avait de quoi la chambouler. L'ange s'est éloigné. La présence n'est plus là. J'imagine Marie assise. Elle est sous le coup de ce qui vient de lui arriver. Elle ne bouge pas, la tête penchée, tournée vers le dedans d'elle, parce que c'est en dedans d'elle qu'elle a été chamboulée. Elle est encore tout entière dans ce qu'elle vient de vivre. Elle prolonge ce moment, le soupèse, l'interroge, veut comprendre, percer le mystère. Les paroles de l'ange repassent dans sa tête. Il m'a appelé par mon prénom. C'est qu'il me connaît. Je n'ai pas été choisie par hasard. Dieu est avec toi, il te fait une faveur. J'ai senti sa bienveillance, il m'a écoutée. Il était prévenant. Je suis bien. J'ai osé poser une question. Dieu est là, tout proche. Oui, oui, je crois qu'il est avec moi. Je vais être enceinte, sans coucher avec un homme. Il a dit que je n'avais rien à faire, simplement que l'Esprit de Dieu viendrait sur moi. Bon, je vais avoir un enfant, ce sera un garçon. Il a parlé de fils de Dieu très haut, du roi David. Est-ce que c'est le Messie? Petit à petit, elle sort de sa méditation. Elle relève la tête. Les contours de la chambre reprennent forme. Encore dans ses pensées, elle reprend ses activités. Progressivement, la réalité reprend ses droits. Mais qui va me croire si je raconte ça? J'étais toute seule. Personne d'autre que moi n'a entendu. Je n'ai pas de témoin. Est-ce réel? Ai-je rêvé? L'ange a dit, rien n'est impossible à Dieu. Et moi j'ai dit, oui, mais je suis folle. Bon. Il me manque une page, pardon. J'ai dit oui, mais je suis folle. Que va dire Joseph quand il saura que je suis enceinte? Est-ce qu'il me croira? Est-ce qu'il voudra encore de moi? Bon, je pensais bien avoir un enfant, mais pas maintenant, pas comme ça, pas sans Joseph. Et que vont dire les gens? Tout ce qu'ils verront, c'est que j'ai trompé Joseph. Je risque la lapidation. Je serai la honte du village, le déshonneur de ma famille. Mon fils sera considéré comme un bâtard. Comment les gens vont-ils me regarder? Oh non, je ne veux pas voir leur regard. Et s'ils me rejettent? Si je suis chassée du village? Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Ça tourne, ça tourne, ça tourne dans sa tête. Ce n'est pas la joie et la louange qui sortent de sa bouche. Alors, elle fuit. Elle va chercher refuge et se cacher chez Élisabeth, dont l'ange lui a parlé. Élisabeth est une femme et en plus quelqu'un de sa famille. Elle va chez celle qui, comme elle, a vu sa vie chamboulée par l'intervention de Dieu. Son mari, Zacharie, est revenu de son service au temple muet. Et elle sent grandir un enfant dans son ventre, elle qui est âgée, qui n'a jamais eu d'enfant et qui ne pouvait plus en avoir. À elle, Marie osera parler, raconter, et peut-être qu'Élisabeth la croira.
Luc 1, 39 à 45. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, vois-tu, au moment où j'ai entendu ta situation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. Tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé.
Marie n'a rien le temps de dire, juste bonjour. À peine arrivée, déjà Élisabeth confirme la parole de l'ange. C'est juste, c'est vrai, Dieu est avec toi. Ton enfant ne sera pas n'importe quel enfant. Tu as bien fait de dire oui. Et la joie et la louange à ce moment-là sortent de la bouche de Marie. Elle n'est plus seule. Élisabeth est avec elle, elle a un témoin. Dieu ne l'a pas laissée se débrouiller toute seule. Il a accompagné sa parole. Il est vraiment avec elle.
Marie dit alors, « De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté de génération en génération pour ceux qui reconnaissent son autorité. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humiliés au premier rang. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle.
Thank you.
Restons un moment dans le silence.
Marie a reçu un fils. La terre a reçu son rédempteur, son sauveur. Un sauveur nous est né, le fils nous est donné, et nous, nous avons reçu un ami fidèle et tendre. Je vous invite à vous lever et à chanter de tout votre cœur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, qui est toujours prêt à nous entendre et à répondre à notre cri.
Nous aurons la joie de vivre avec lui toujours.
rendez-vous, il est à la porte et il frappe. Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir la porte de notre cœur à ce Sauveur qui est né il y a environ 10 000 ans? Est-ce que comme Marie qui a entendu l'Éternel, qui a entendu l'ange de l'Éternel, nous sommes prêts aussi à l'écouter? que nous aimons nous inviter enfin, comme Marie, à chanter gloire dans toutes les circonstances, même quand on ne sait pas trop ce que Dieu veut faire de nos vies, dans tous nos scénarios catastrophes. Dieu est avec nous et nous chanterons gloire quoi qu'il arrive. J'aimerais vous inviter aussi à exprimer librement notre reconnaissance. On va faire passer des paniers avec l'offrande. Sentez aucune pression. Il est aussi possible de donner par d'autres moyens. Donnez selon la joie que vous avez dans votre cœur.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, et même si si c'est difficile, oh, nous chantons gloire à l'Éternel, chantons louange à son nom, nous chantons Dieu, notre essentiel.
rester debout.
Seigneur, nos mots sont trop petits pour dire tout ce que tu fais pour nous. Mais merci, merci, merci. Cette offrande, c'est une façon de te dire merci. Bénis notre Église, bénis chacun d'entre nous, bénis les personnes dans le monde entier, parce que sans toi, la vie n'a pas de sens. Et sans toi, certains sur ce monde, dans ce monde, ont trop de peine à la vivre, cette vie. Merci Seigneur, parce que tu es là, comme tu l'as dit à tel mot. Amen. Alors vous êtes restés debout pour la bénédiction.
La relation avec notre Dieu peut être compliquée parce que nous ne le voyons pas. Mais notre Dieu invisible est un Dieu qui se rend visible dans notre monde physique de chair et de sang. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Dans Marc 13, 35, Dieu nous dit « Restez éveillés, car vous ne savez pas l'instant où vient le Maître, le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin. » Je ne sais pas si c'était le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, mais Marie était éveillée pour la venue de l'ange.
Je ne sais pas, Seigneur, quand tu viens dans ma vie. Je t'attends toujours plus tard. Je m'active, je me projette, je me souviens. Parfois, j'imagine notre face à face. Ne permets pas que je manque le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq ou le matin, l'instant de ta venue. Ces moments où je jette mon tablier, où je m'assois dans le jardin et où tu convertis mon attente en la joie parfaite de te savoir présent. Marion Muller-Collard.
Restons éveillés, sachant reconnaître quand Dieu vient. Que la présence et la puissance de Dieu vous accompagnent comme une ombre délicate qui se pose sur vous.
Allez en paix. Vous avez la faveur de Dieu. Il est avec vous.
Amen. Amen. Bon dimanche.
Je voulais juste saluer toute l'Église de la part de l'Église de Molsheim en Alsace. Vous êtes tous les génies du monde le week-end dernier. Et vraiment, ils sont à Molsheim, ils sont contents de savoir qu'on pense à eux, qu'on pense aux églises, qu'ils ont un projet de construction. Alors voilà, on peut continuer de penser à eux. Ils saluent bien toutes les églises et transmettent leur meilleur vœu à chacun.
Bye. J'ai hésité à jouer le tartufo.